journal, présenté par Pascal Massirica.
Les titres du journal, plus de 400 cas de violation des droits de l'homme, dont 54 exécutions sommaires extrajudiciaires documentées au mois d'août dernier à RDC. Le directeur du bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme attribue ces actes aux agents étatiques. Au Nord Kivu, la ville morte décrétée par la société civile à Butembo a fait perdre des millions de dollars américains aux commerçants de cette ville. Le président de l'association patronale appelle les autorités à restaurer la sécurité dans cette contrée. Restructuration des provinces éducationnelles en RDC, objectif visé par le ministre de l'EPSP, contrôler et évaluer la qualité de l'enseignement. Gaston Moussemena est l'invité de Radio Okapi dans ce journal. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous faire confiance. 441 violations des droits de l'homme, dont 54 exécutions sommaires extrajudiciaires attribuées aux agents étatiques, ont été documentées au mois d'août dernier en RDC. Annonce faite ce mercredi à Kinshasa par le directeur du bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme. C'était au cours de la conférence de presse hebdomadaire au quartier général de la MONUSCO. Les propos de José Maria Aranaz sont recueillis par Honoré Missenga Kalala.
Dans les mois passés, notre bureau a enregistré 441 violations documentées dans les territoires de la RDC, qui représentent une hausse par rapport au mois de juillet, une augmentation importante. Les principaux types de violations documentées sont les droits à la liberté et à la sécurité de la personne, les droits à l'intégrité physique. La PNC, la FRDC et la ENR étaient responsables de la majorité des violations des droits humains. 64% des violations ont été commises par les agents étatiques. 54 personnes ont été victimes des exécutions sommaires et extrajudiciaires par les agents étatiques, et c'est un chiffre préoccupant.
Annoncé depuis plusieurs mois, le forum sur la paix dans l'espace kasaïen s'ouvre vendredi prochain à Kananga. Selon un communiqué rendu public par le conseiller en communication du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ces travaux mettront ensemble les représentants des forces vives de 5 provinces du Grand Kasaï. Ces travaux de 3 jours tourneront autour de la réconciliation et le développement de cette partie du pays. François Kadima.
Citant le Kasaï oriental, le Kasaï central, le Sankuru et la Lomami, les documents indiquent que ces entités ont été récemment affectées par le phénomène Kamuinansapu. Plusieurs rapports de l'ONU et des ONG renseignent que depuis le début de ces violences, plus d'un million de personnes ont quitté leur milieu d'origine, dont plusieurs centaines d'enfants. Alors que le gouvernement veut panser et cicatriser les plaies, plusieurs structures locales pensent que la solution du Kasaï est en premier lieu politique. Cas de l'association congolaise pour l'accès à la justice à Cage, qui estime que l'absence prolongée du gouverneur de province Alex Kandé à la suite de cette situation a bloqué tous les projets entamés pour le développement de la province. Son président provincial au Kasaï central, Adrien Ilobankoei, a dans un communiqué parvenu à Radio Kapi cité entre autres les projets de routes, celui de barrages hydroélectriques de Katende et de Monyambulu. D'autres acteurs socio-économiques et politiques de l'espace Kasaï soulignent aussi la nécessité pour le pouvoir en place de réhabiliter également le barrage Tchala à Mbujimayi au Kasaï oriental. Entre-temps, plusieurs délégations sont annoncées à Kananga et certaines arrivent déjà dans la ville pour participer à ce forum. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Et puis fédérer les organisations féminines en vue de participer à la gestion de la chose publique en RDC selon l'esprit et la lettre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est l'un des objectifs du forum des femmes de la RDC qui se tient depuis hier mardi ici à Kinshasa. Prennent part aux assises une soixantaine des femmes venues de toutes les provinces du pays. Des précisions avec la présidente de la Synergie des femmes pour les victimes sexuelles, Justine Massika, le dit à Paul Matendo.
Sur ces forums, on vise plus mettre l'accent sur la participation de la femme dans la gestion de la chose publique, dans la gestion, et mais aussi la participation de la femme dans les résolutions des conflits. Comme vous le savez, une grande partie de notre pays, il y a des conflits, mais les femmes sont toujours oubliées dans les négociations de paix et les femmes n'exercent pas leur pouvoir. Et nous, nous croyons que si les femmes sont suffisamment représentées, là quand même, nous aurons des solutions durables. Nous voulons vraiment que nous puissions être présentes dans notre coalition pour que nous puissions avoir une voix, une seule voix pour les femmes. Il est vrai que la résolution 1325 amena 17 ans. Et nous, nous croyons que sur ces piliers, il y a la prévention, la participation politique de la femme, la protection et les poursuites.
Voilà qui nous conduit maintenant au Nord Kivu où le bras de fer entre la société civile et le comité urbain de sécurité de Butembo affecte l'économie de cette ville. Selon le président de l'association patronale de Butembo-Lubero, le secteur import-export est paralysé. Polycarpe Ndivito affirme que les membres de sa corporation ont perdu ces jours-ci des millions de dollars américains. Il appelle par conséquent les autorités à écouter les revendications de la société civile qui dénonce l'insécurité dans cette partie du pays. Il est joint par Martial Papimoukeba.
Les échanges commerciaux sont paralysés sur tous les plans. Le secteur de production, il en souffre beaucoup parce que les gens sont tirés dans leur maison. La clientèle qui provient de Bounia, de Kisangani, de Ndiviro, ne peut plus arriver à Butembo à ce moment-là. Le secteur import-export, il est complètement paralysé. Parce que écoutez, nous exportons du café, nous exportons du quinquina, du thé, du cacao. Tout cela, ça fait que l'opérateur économique de Butembo, il se retrouve isolé des autres opérateurs économiques. C'est vraiment regrettable qu'on tue l'économie du pays comme ça, tellement de millions de dollars. C'est à la suite de la sécurité récurrente que tout ça est fait. Nous avons des craintes énormes. S'il n'y a pas de solution de douane adaptée à la situation, je crois qu'on ne va pas s'en sortir. Il faudra que les autorités soient attentives par rapport aux désidératants de la société civile.
Dans le Bazouélé, pendant ces temps, les habitants de Kanana ont quitté cette localité hier mardi matin, fuyant les coups de feu qui ont été tirés par des militaires dans une carrière minière portant le même nom. Selon la société civile locale, ces soldats FRDC voulaient mettre fin à une bagarre rangée entre les membres d'une même famille propriétaire de la dite carrière. Le récit d'Anselme Massoua.
Le calme est revenu depuis hier soir dans le village Kanana. Selon l'administrateur du territoire de Bondo, cette entité est présentement gardée par les militaires FRDC et les éléments de la PNC. Ces coups de feu ont été tirés, déclare la société civile, au moment où le ministre provincial des Mines présidait la cérémonie d'installation de Mme Flora Babouza, la nouvelle administratrice du foyer minier de Kanana, en remplacement de leur père Jean Babouza, décédé. D'après la même source, la désignation de Flora Babouza par les autorités provinciales a été mal digérée par les membres de sa famille. À la place, ces derniers ont préféré leur frère Jean-Pierre Babouza. Le refus de l'installation de la nouvelle administratrice a occasionné une dispute qui a abouti à une bagarre rangée entre les membres de la famille. Débordés, poursuit la même source, l'armée et la police en nombre réduit ont dû tirer en l'air. La population à débandade s'est retirée dans les localités de Baye, de Mandundu et dans la carrière minière Séminaire. On signale également le pillage d'un comptoir d'or appartenant à un opérateur économique. Inquiet, l'administrateur du territoire promet d'aller rencontrer dans 48 heures la famille Babouza pour un règlement pacifique du conflit. Kisangani, Anselme Massoua, Radio Okapi.
Et puis à Lissala, les victimes des événements de la secte religieuse Waminene et la répression des forces vives, des forces de l'ordre qui avaient suivi, viennent d'être indemnisées par le gouvernement central. Il s'agit des blessés et des familles qui ont perdu leurs proches et des sinistrés dont les habitations avaient été incendiées. La cérémonie a été présidée par Jean-Martin Alakani, gouverneur intérimaire de la Mongala. Le compte-rendu de Dominique Colombi.
Selon le ministre provincial des Affaires sociales et humanitaires, Didier Mazongo, cette assistance en faveur de ses victimes est l'aboutissement du plaidoyer que le gouvernement provincial a mené auprès du gouvernement central. L'enveloppe de l'indemnisation s'élève au total à 70 millions de francs congolais. Les victimes des événements de la secte religieuse de Waminene, précise le ministre provincial Didier Mazongo, ont reçu chacune de l'argent en espèces. Les sinistrés pour reconstruire leurs habitations incendiées, les blessés pour honorer les factures de leurs soins de santé, les autres en signe de compassion à leurs parents qui ont trouvé la mort au cours de ces événements. Les opérateurs économiques dont les commerces ont été pillés au cours de ces échauffourées ont eu également leur compte. Rappelons que ces événements remontent au 20 décembre 2016 à Lissala. L'autorité provinciale avait voulu déplacer des forces, les adeptes de la secte religieuse du gourou Waminene, accusé des pratiques louches et des promiscuités sexuelles. Ceux-ci avaient opposé la résistance. Les forces de l'ordre avaient chargé, bilan, une vingtaine de morts et 47 habitations incendiées. Mbandaka, Dominique Wolombi Mongapangé, Radio Okapi.
On passe dans le Congo central où les habitants de Kasangoulou, une cité située à plus de 340 km à l'est de Matadi, déplorent le manque d'électricité dans leur contrée depuis 3 semaines. Bobo Okilamba, membre de la société civile locale, indique à Radio Okapi que cette situation a plongé la population dans l'insécurité et le ralentissement des activités commerciales. La direction provinciale de la SNEL justifie cette situation par le vol des câbles venant du barrage de Zongo par des incivils. Pour en parler, retrouvons à Matadi Guy Roger Nyampala.
Selon ce membre de la société civile de Kasangoulou, la SNEL n'alimente aujourd'hui que les grandes entreprises basées dans cette contrée et non la population. Maître Bobo Kilamba.
Mais les carrières qui sont implantées dans les territoires de Kasangoulou, nos collaborateurs chinois qui sont venus pour le développement, ont de la tension électrique. Les commerçants ont des difficultés à pouvoir bien gérer leurs marchandises. Les élèves et les étudiants ont du mal de se gérer et de finir pour aller à l'université. Nous, les consulaires, comment on va apprécier le travail et de passer nos amis? Les mamans à la maison, comment ils vont préparer?
De son côté, la SNEL Kasangoulou parle effectivement de ce vol, mais un élu local parle aussi de transformateurs avariés, les députés provinciaux Mambo Luamba.
Il y a eu des inciviques qui ont saboté la ligne Zongo. Ils ont volé les fils nés en cuivre. J'ai des précisions. On a tenté de traverser la ligne haute tension en remplaçant le fil en acier. C'est ça qui fait qu'on subit des délaissages au niveau du territoire de Kasangoulou. J'ai demandé à la population de Kasangoulou d'être calme, précisément de quartier Mawet, de Bouvert aussi, pour qu'ils aient confiance à la SNEL. La SNEL a tenté de traverser le transfert. C'est au niveau de Mpozo. Je crois que dans 2-3 semaines, nous aurons le transfert au niveau de Kasangoulou et au niveau du quartier de Bouvert.
Matadi, Guy Roger Nyampala, Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi la fin ce mercredi à Kinshasa de la campagne sur la sécurité routière intitulée « Entre boire ou conduire, il faut choisir ». Depuis le 7 juillet, en effet, les conducteurs de la ville de Kinshasa ont été sensibilisés sur le danger que représente l'alcool. Ceux qui se sont bien comportés pendant cette activité ont été primés par la Commission nationale pour la prévention routière en collaboration avec la Fondation Moralima. Un reportage d'Étienne Kalema.
50 automobilistes ont pris part à cette deuxième édition de la campagne « Entre boire ou conduire, il faut choisir ». Seulement, 5 se sont distingués durant cette campagne consacrée au respect du code de la route. Parmi les lauréats, Emmanuel Zouzi, taximen depuis 24 ans.
J'ai un sentiment de joie parce que je savais que j'étais parmi les meilleurs chauffeurs. Et depuis que j'ai commencé ce métier, je n'ai pas encore connu un accident majeur. Avant d'obtenir ce prix, je leur avais dit que je serais parmi les deux premiers. Je suis un exemple de chauffeur de Kinshasa.
Satisfaction du président de la Commission nationale de la prévention routière, Val Manga.
Ils ont respecté le code de la route et tout ce qu'il y avait comme critère. Le 5, ils ont tout simplement réussi à toutes les conditions ayant trait à la sécurité routière.
Par cette campagne, la Fondation Bralima veut encourager une consommation plus responsable des boissons alcoolisées, explique Laurent Boukassa, son secrétaire général.
Nous avons la responsabilité d'accompagner des programmes comme celui-ci pour passer clairement le message que nous voulons avoir des consommateurs qui boivent de manière responsable et très longtemps dans leur vie, au lieu d'avoir ceux-là qui boivent de manière responsable et de manière très courte dans leur profit.
Après cette campagne, la Commission nationale de la prévention routière a annoncé le démarrage la semaine prochaine, ici à Kinshasa, de la campagne dénommée Traversée des piétons.
Actualité Afrique Monde.
Et maintenant, les nouvelles de l'étranger. 2 soldats égyptiens et 6 djihadistes ont été tués dans un attentat suicide lors d'un accrochage dans le nord du Sinaï égyptien. Annonce faite cet après-midi par le porte-parole des forces armées. Les militaires ont réussi à déjouer cette opération terroriste visant un checkpoint. Dans un communiqué qui a été publié cet après-midi par son organe de propagande Hamak, le groupe État islamique a revendiqué cette attaque. Plus de 150 migrants ont été secourus la nuit dernière en mer Noire au large de la côte roumaine alors que leur bateau était en détresse. Depuis la mi-août, en effet, il s'agit du 5e bateau transportant des migrants interceptés par les autorités roumaines, confrontés ce jour-ci à une accélération des passages via la mer Noire en provenance de la Turquie. La Roumanie, globalement épargnée jusqu'ici par le flux migratoire, redoute que la mer Noire devienne finalement un trajet trajet alternatif au passage par la Méditerranée pour les clandestins cherchant à gagner l'Europe. Enfin, sachez que 3 personnes, dont un policier, ont été tuées et 5 autres blessées quand un kamikaze a fait exploser sa charge ce mercredi après-midi près d'un stade de Kaboul, selon la police nationale. En se sacrifiant, les forces de sécurité ont empêché l'assaillant d'approcher la foule qui se trouvait à l'intérieur du stade et de provoquer une catastrophe, a ajouté la police.